Radio Kapi.
Le journal, c'est avec vous, Patience Ngalulambombo. Reprise des cours à Goma et ses environs prévus pour ce lundi 10 février 2025 après deux semaines de suspension en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 a annoncé cette reprise vendredi dernier après des consultations avec les autorités de l'éducation nationale assurant ainsi la continuité de l'éducation des enfants. La prison de haute sécurité de Bouluo en pleine réhabilitation grâce au financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le maire de Likasi, ville où se situe où cette maison carcérale, s'est rendu sur place vendredi dernier pour constater l'achèvement de la première phase des travaux. Notre invité est Maître Okandju Okonge Flori, secrétaire exécutif de l'Agence des facilitations des transports des transits du corridor central. Il nous parle de ses projets intégrateurs du chemin de fer Tanzanie, Burundi et RDC avec Kindu comme terminus. Bonsoir à tous. Reprise des cours en Nord Kivu. Après deux semaines de suspension des enseignements en raison de la détérioration de la situation sécuritaire à Goma et ses environs, les parents sont invités à renvoyer leurs enfants à l'école dès ce lundi 10 février 2025. Dans un message diffusé vendredi dernier, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 a annoncé cette reprise après des consultations avec les autorités de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, assurant ainsi la continuité de l'éducation des enfants. Chris Mukand.
Dans son message, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Luc Gbaweza, précise que les activités scolaires vont reprendre lundi 10 février 2025 dans les écoles primaires et secondaires de la ville de Goma et les bureaux gestionnaires qui n'ont pas été détruits lors des combats. Quant aux écoles touchées ou affectées par la crise, les chefs d'établissement devront se réunir avec les comités des parents, conseils de gestion, pour évaluer les dégâts enregistrés et envisager des réparations urgentes pour permettre aux écoliers et élèves d'étudier dans les meilleures conditions. Pour les écoles complètement détruites, à l'instar de l'école du cinquantenaire au quartier Mugunga, dans la commune de Karisimbi, la reprise se fera de manière progressive, eu égard aux travaux de réfection ou de réhabilitation, le cas échéant. Autre disposition. Les séances de double vacation sont strictement interdites. Les heures de sortie des classes ne devront dépasser celles requises par le programme national, souligne le message. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 invite les gestionnaires, les inspecteurs d'enseignement, les chefs d'établissement scolaire, les enseignants et les parents d'élèves à collaborer étroitement pour la réussite de cette année scolaire.
En raison de la situation sécuritaire précaire, les institutions publiques et toute l'administration du Nord Kivu sont provisoirement transférées de Goma à Beni en attendant la reconquête des zones occupées par les rebelles du M23. Cette décision annoncée dans une note circulaire signée le 1er février 2025 par les nouveaux gouverneurs militaires, le général-major Somo Kakule Evariste s'adresse aux chefs des administrations publiques, aux dirigeants d'entreprises publiques et privées, aux membres des corporations des travailleurs et employeurs, aux ONG locales, nationales et internationales, ainsi qu'aux agences du système des Nations Unies et de la MONUSCO. Nord Kivu toujours, les agriculteurs du territoire des Nyiragongo déclarent ne pas pouvoir accéder à leurs champs en raison de la présence des corps en décomposition sur les routes et dans les champs. Cette situation représente une grave menace pour la santé publique, alerte plusieurs acteurs locaux. Ces derniers ont contacté Radio Kapi ce samedi 8 février pour demander à la Croix-Rouge et aux humanitaires d'intervenir de toute urgence afin d'évacuer ces corps et d'assainir la zone. Sifa Maguru.
Les faits s'observaient plus dans différents villages et groupements Kibati, Bouvira et Rusayu. Alors que la population tente d'accéder aux champs à la recherche de la nourriture, profitant de cette accalmie relative qui s'observe depuis l'occupation, celle-ci se heurte à cette difficulté. D'après nos sources, des affrontements intenses à l'arme lourde ont été enregistrés dans ces villages avant l'entrée des rebelles dans la ville de Goma. ce qui justifie la présence de plusieurs cadavres de militaires et civils confondus qui traînent encore çà et là et qui fait craindre des risques et des épidémies. En outre, notre source évoque la crainte d'engins non explosés, mais aussi des armes abandonnées qui sont visibles dans plusieurs villages. L'urgence s'impose pour que des interventions de déminage et d'assainissement soient organisées en territoire de Nyiragongo en général, précisent nos sources.
Ici à Kinshasa, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a lancé un appel vibrant à la mobilisation contre l'agression rwandaise lors d'un meeting populaire ce samedi au camp Luka, dans la commune d'Engaliema. Il a exhorté les Kinois à soutenir les forces de défense et de sécurité ainsi que les initiatives du chef de l'État pour repousser les agresseurs. En tant qu'autorité morale du parti politique Convention pour la République et la Démocratie CRD, Christophe Mboso a également encouragé les jeunes à servir les pays sous les drapeaux. Ces propos ont été recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
L'ennemi Paul Kagame veut faire régner les désordres sur notre territoire alors que le sol et les richesses nous appartiennent. Même s'il envoie ses soldats sur notre territoire, est-ce qu'il aura gagné cette bataille sur notre propre sol? Jamais. Paul Kagame va échouer avec son entreprise de destruction comme nous sommes tous debout. Ce n'est pas ça? Soyons tous derrière notre président Félix Tshisekedi. Nos FARDC ont gagné et notre président va gagner. N'ayons pas peur et prêtons main forte au chef de l'État Félix Tshisekedi. Je crois que nous sommes entendus car nous avons un président digne. Quand nous sommes calmes et nous ne voulons pas des problèmes et que l'envahisseur Paul Kagame nous cherche à nous créer des ennuis.
Au cours de ce meeting populaire, le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement était accompagné du vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba. Dans le territoire de Beni au Nord Kivu, la criminalité explose dans la chefferie des Bachou. En l'espace d'une semaine, 4 personnes ont été assassinées par des hommes armés non identifiés, selon Maombi Kaongia, président de la société civile locale. Le dernier drame s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque le chef des localités de Wambalume et son épouse ont été tués, sémant la panique parmi les habitants. Maombi Kaongia tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités à diligenter des enquêtes pour arrêter ces bandits qui terrorisent la population. Ces propos ont été recueillis par Guylaine Kassassia.
La société civile Force Vive de la chefferie de Bachou s'inquiète pour la montée des cas de criminalité presque dans tout le groupement de la chefferie de Bachou. Et les cas les plus récents, c'est le cas de l'assassinat de M. Mboussanti Lamba, chef de la localité de Wambalume, qui est situé non loin du chef-lieu de la chefferie de Bachou à Butungera, qui a été assassiné à son domicile. Cette montée de criminalité s'observe partout dans la chefferie de Bachou, car même tout au début de la semaine, le président de la société civile de Kaviso fut également assassiné à son domicile par des bandits porteurs d'armes à feu qui lui ont logé plus de 3 balles dans l'abdomen. Ainsi, la crainte est qu'aucun service de sécurité n'a pu mettre la main sur ces bandits qui sont en train d'errer d'ici et là. Et la population est dans une crainte totale car ne sachant pas qui peut être la prochaine victime. Ainsi, nous rappelons aux autorités compétentes de pouvoir renforcer la sécurité tout en rappelant à la population de rester vigilante afin de dénoncer tout mouvement suspect.
La prison de haute sécurité de Boulouo, située dans la commune de Chitourou à Likasi, est en cours de réhabilitation grâce au financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Vendredi dernier, le maire de Likasi s'est rendu sur place pour constater l'achèvement de la première phase de travaux. Jean Gandou.
La première phase de travaux a pris fin ce vendredi. Elle a consisté à la réhabilitation de la toiture de toutes les cellules endommagées par la pluie le 6 janvier dernier, comme l'atteste le responsable de la division provinciale des infrastructures et aménagements du territoire.
Les travaux consistent en remplacement de la toiture et aussi réhabiliter les circuits électriques. Il y aura aussi le rafraîchissement de la peinture qui va suivre. Jusque-là, on a fait une première phase qui a consisté à remplacer la toiture sur la première aile. J'ai fait le rapport au chef. Il a accordé que la semaine prochaine qu'on commence avec l'autre aile. Dès qu'on aura fini avec les cellules carcérales, à ce moment-là, on va attaquer avec le bureau administratif de manière à ce que la réhabilitation soit faite de manière complète.
L'objectif est donc d'humaniser les conditions de détention et de renforcer aussi les mesures de sécurité. À noter que dans cette prison se trouvent aussi d'autres pavillons dont les travaux de réhabilitation ont longtemps commencé mais qui ne sont jamais arrivés à terme. Jusqu'au ce vendredi, la prison de haute sécurité de Blouo comptait plus de 500 pensionnaires venus de plusieurs coins du pays. Parmi eux, ceux considérés comme étant les plus dangereux. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Autre nouvelle, depuis ce dimanche matin, la ville de Kisangani est plongée dans le noir en raison d'une panne survenue au groupe numéro 2 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo, les seuls encore en fonctionnement. Les deux autres groupes sont hors service depuis longtemps. Selon Jean-Claude Lianja, chef des divisions de production et transport, seuls les sites stratégiques seront alimentés par des groupes électrogènes. Les travaux de réparation prévus pour durer 5 jours, du 9 au 13 février, pourraient être achevés plus rapidement grâce aux mesures prises pour réduire ces délais au strict minimum. Jean-Claude Lianja explique les causes de l'arrêt du groupe numéro 2 au micro de Jacques Moukonkole.
Le groupe numéro 2 a un problème de percement d'un radiateur que nous appelons ici réfrigérant, qui refroidit l'huile qui alimente la pivoterie et les paliers supérieurs de la machine. Cet organe-là, quand ça perce, parce que cet organe-là baigne dans l'huile, l'eau circule à l'intérieur de cet organe qui baigne dans l'huile pour refroidir l'huile qui s'échauffe à cause des frottements métal-métal, tout ça. Et quand cet organe-là se perce, l'eau qui circule à l'intérieur entre dans le bain d'huile. Et c'est très mauvais pour les endroits de surface où il y a un système de lubrification. Là où il y a frottement, dans cette surface-là, il y a un film d'huile qui pénètre dedans pour créer une lubrification. Mais cette huile-là doit être propre pour un meilleur glissement. Si cette huile-là est polluée, c'est-à-dire que si ça contient de l'eau, ça peut créer un mauvais frottement et quand ça grippe, c'est une longue indisponibilité. Et ça, c'est ce que nous voulons éviter.
Dans la province du Maniema, un cadre d'échange a été organisé pour évaluer les projets PADRIR, programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, et la prise en charge de retraités de la fonction publique par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP. Les participants ont formulé plusieurs recommandations, notamment l'ouverture d'un bureau du CENSAP au Maniema. Il a été révélé que le Maniema est l'une des provinces avec les taux les plus faibles des fonctionnaires de l'État. Écoutons à ce sujet les gouverneurs du Maniema, Moussa Kabwankubi, au micro de Florence Kizalunga.
Comme nous ne cessons de le dire, les différents ateliers ou les différentes conférences que nous organisons offrent un cadre pour passer en revue, diagnostiquer les secteurs, mais la population ne va pas manger les diagnostics, mais les diagnostics sont aussi utiles pour bien comprendre les problèmes. Donc notre souhait, c'est de passer aux choses concrètes. Par exemple, pour CENSAP, c'est de voir les bureaux de CENSAP s'ouvrir ici. Pour PADRI, c'est de voir que les travaux de réhabilitation de 700 km ont commencé cette année dans la province du Maniema. Alors, il a été, par exemple, noter que la province du Maniema était parmi les provinces qui ont les taux les plus faibles des fonctionnaires de l'État. Les recommandations phares qui ont été retenues, c'est notamment pour CENSAP, c'est l'ouverture des bureaux de CENSAP ici au Maniema. S'agissant du projet PADRI, ce programme est chargé de la réhabilitation de 700 km de route. Et là, la majorité des participants ont insisté sur l'accélération des procédures.
Actualité internationale.
Près de 50 corps retrouvés dans 2 fosses communes dans le désert libyen. Le premier charnier contenant 19 corps a été découvert vendredi dernier dans une ferme de la ville de Koufra, dans le sud-est du pays. Selon l'organisation caritative Al-Abrayan, qui aide les migrants dans l'est et le sud de la Libye, la plupart ont été tués par balles avant d'être enterrés. Une autre fosse commune contenant au moins 30 corps a également été découverte dans un centre de trafic d'êtres humains. Des personnes rescapées ont indiqué que près de 70 personnes avaient été enterrées. Pour les autorités, le travail des fouilles se poursuit.
L'invité.
Notre invité est Maître Okandju Okonge-Flory, secrétaire exécutif de l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central, il qui nous parle du projet intégrateur du chemin de fer reliant la Tanzanie, les Burundi et la RDC avec Kindu comme terminus. Écoutons Maître Okandju Okonge-Flory dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga.
Maître Okandju Okonge-Flory, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
C'est quoi ce projet générateur du chemin de fer Tanzanie, Burundi et RDC avec Kindu comme terminus?
Alors c'est un projet tripartite pour trois pays, la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo avec Kindu comme terminus. C'est un projet de chemin de fer électrifié à écartement standard. Écartement standard, c'est-à-dire un écartement qui est internationalement reconnu, que nous sommes en train de développer évidemment. Nous assurons la coordination, mais ce sont les pays qui développent ces projets-là, donc les gouvernements de ces trois pays, et que l'objectif final, c'est d'accroître l'économie de nos pays, de désenclaver l'Est de la République démocratique du Congo, parce que vous savez qu'elle n'a pas accès direct à l'océan, et que l'Est utilise plus les ports de Dar es Salaam pour ses importations et l'exportation vers la Chine, la Turquie et d'autres pays. Donc c'est ça le projet que nous sommes en train de développer, et pour le moment nous sommes contents de voir le développement en cours, et nous croyons que les que nous avons pour le moment, ça va continuer à faire que ce projet voie jour.
C'est dans quelles circonstances que ce projet a été né? Parce que avec le chemin de fer, je pense que c'est un projet à long terme.
Oui, justement, c'est un projet à long terme. Évidemment, quand on gère les pays, on les gère non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Donc, c'est un projet qui est à moyen et à long terme. Parce que ce projet, une fois dans la section évidemment comprise entre le Burundi et la République démocratique du Congo, nous sommes dans la phase des études de faisabilité. Une fois que les études sont terminées, et si nous passons à la phase de construction, je pense que 3, 4 ans, 5 ans maximum, on peut être à mesure de voir ce train arriver jusqu'à Kindu. Donc, je dirais que c'est à moyen et à long terme. Alors, le contexte de sa naissance, c'est que c'est le souci de désenclaver l'Est de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Ce projet va quitter Dar es Salaam, Gitega au Burundi, passer par Musongati, Bujumbura, ça traverse Uvira, ça va arriver jusqu'à Kindu. Et donc, c'est dans ce souci là de faciliter les transports de marchandises et de personnes de manière rapide, sans beaucoup de barrières tarifaires et non tarifaires, que les États se sont convenus de développer ce projet. Voilà, c'est ça le contexte. Donc, le souci, c'est rendre rapide les transports, n'est-ce pas, des passagers et de leurs biens le long de ces corridors, afin de les rendre compétitifs, mais aussi afin de favoriser que la population ait accès aux biens et services à un coût réduit.
Bien sûr que vous voulez faciliter les opérateurs économiques. Ces projets en question, vous êtes à quel niveau?
Alors présentement, ça dépend des sections. Du côté de la Tanzanie, par exemple, dans les territoires tanzaniens, le projet est en cours de développement, mais les trains circulent déjà. Vous pouvez quitter Dar es Salaam jusqu'à Dodoma, c'est 450 km. Là, vous prenez votre train à grande vitesse. Là, le train est déjà en marche, mais la construction continue pour arriver au niveau de la région de Kigoma. Maintenant, dans la section qui devra couvrir la région de Kigoma en Tanzanie et la région de Musongati au Burundi, le contrat de construction de la voie a été signé le 29 janvier 2025 et que bientôt la construction va devoir commencer. Donc, le contractant est à la phase de déploiement ou d'installation du chantier. Maintenant, dans la section reliant le Burundi à partir de Musongati, Gitega, la capitale du Burundi, descendant à Bujumbura pour rentrer en RDC, arriver jusqu'à Kindu, là, les études de faisabilité sont en cours. Et les études ont commencé depuis le mois de mai 2023 et nous espérons les terminé en avril 2025. Bien entendu, il pourrait y avoir une extension des délais de livraison du rapport final, étant donné les retards que nous avons accumulés après la signature du contrat, parce qu'il fallait payer les factures du consultant.
Avec tout ça, vous avez les financements des partenaires ou bien ce sont les pays membres qui financent tous ces travaux?
Alors, bien entendu que l'argent vienne des partenaires techniques et financiers, mais ça sera toujours remboursé par les gouvernements. Donc, en définitive, je dirais que ce sont les gouvernements des trois pays qui sont en train de construire avec l'argent. Cet argent, ça peut provenir des fonds, des trésors publics directement, tout comme aussi ça peut provenir des grants, c'est-à-dire des dons, tout comme aussi ça peut provenir des prêts. C'est-à-dire que les États peuvent signer les accords de prêts avec la BAD. Et ici, le principal bailleur de fonds pour ces projets, c'est la Banque africaine de développement. Donc, en définitive, ce sont les gouvernements qui financent par divers mécanismes, à savoir les dons provenant des bailleurs de fonds, tout comme aussi les crédits provenant spécialement de la BAD.
Maître Okandju Okonge, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Madame Florence Kizalunga.
Maître Okandju Okonge, Flori, secrétaire exécutif de l'Agence des facilitations des transports et des transits du corridor central, s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est par ici que nous bouclons ce journal sur Radio Kapi, mis en onde par Mimi Kindou, sous la supervision et coordination des Jules Mystère Bilan Dankoumar et Gisèle Cage. Patience Ngalula Mbombo, c'est moi, j'étais à la présentation. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via les liens disponibles sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. N'oubliez pas de nous suivre, de partager vos commentaires et de participer à nos discussions. Bonne suite des programmes sur Radio Kapi.